création
on air.
Creation on air.
Bonsoir. Vous avez une vingtaine d'années, êtes étudiante au Créadoc. Vous croisez une femme et entrez dans son monde chahuté par une maladie qui fait tomber les cheveux dans le lavabo, abîme le corps et perturbe les chemins du désir. Vous commencez avec elle un entretien en 2015, équipé de votre enregistreur de type Fostex et d'un micro LEM. Le canapé est en cuir noir. Vous découvrez aussi que dans le monde des oncologues sont nés les oncosexologues. En 2017, vous revenez avec Élise à Royan, où des corps insouciants, exempts des tatouages de la radiothérapie, s'exposent au soleil et au théâtre de la plage. Derrière la vitre, le désir, Mathilde Simon, Gilles Mardi-Rossian, création On Air.
Bon, je vais mettre d'autres chaussures et je vais prendre une serviette. Tu te baignes, toi, ou pas?
Ah bah oui.
Ah bah moi, pas.
Ah ouais?
Moi, je me baigne pas dans l'Atlantique. Trop froid.
Ah ouais? Ouais. Tu mets même pas tes pieds dans l'eau?
Si, les pieds. Mais je mets pas de maillot dedans, je vais pas me baigner. Tu veux boire un coup?
Non,
c'est pas très chaud.
Non, merci.
Mais c'est pas frais. C'est pas très frais, mais c'est pas chaud.
Toi, tu te baignes jamais dans la mer?
Non. Tu veux t'approcher de l'eau?
Ah ouais, un peu.
Pour rester un peu en retrait.
Ben... moi j'aimerais bien me mettre là où il y a un peu de monde.
Ouais. Ben là on va s'approcher.
Ouais.
Tu peux t'asseoir là, hein?
Ah ouais?
Ben oui.
Okay.
Regarde, c'est assez large, hein?
Ouais. Voilà, okay.
Et t'as pris un maillot de bain, Lise?
Ouais.
Non?
Ce qui me frappe le plus, c'est le bronzage de la majorité d'entre elles, quoi, d'entre toutes ces personnes ici allongées ou semi-assises. Moi, je les vois tous, ils sont tous bronzés, comme je, voilà, très très bronzés, la peau reluisante. Moi, j'arrive avec une peau blanche parce que je ne me mets plus au soleil depuis bien longtemps. Mais après, il y a... comment dire? Oui, il y en a quelques-uns. Si je les regarde, qui sont super bien foutus, d'autres moins. Mais bon, il faut tout pour faire un monde. Les plages, c'est pas réservé aux gens bien foutus, sinon il n'y aurait personne.
Élise, quand tu dis il y a des gens bien foutus qui sont bronzés, moi je les vois pas.
Tu vois pas les gens bien bronzés? Il y avait deux jolies filles à côté de nous tout à l'heure. Bon, elles viennent juste de partir. Pas super bien foutu, quoi. Pas de bourrelet, pas de graisse. Je sais pas, moi, c'est peut-être pas la taille mannequin, 90, 60, 90, j'en sais rien, je les ai pas mesurés. Mais en attendant, avec une peau super luisante, bien bronzée, qui affiche quelques heures d'exposition au soleil. Bon, c'est vrai que oui, j'en vis peut-être ça, ouais. Ce que je faisais peut-être dans le temps quand j'avais 20 ans, d'ailleurs. J'étais certainement comme ça parce que je passais des heures au soleil. Pour moi, revenir de vacances, l'objectif, c'était revenir bronzé. Avoir réussi ses vacances, c'était revenir bronzé. Mais oui, j'envie les gens très bronzés. Mais parce que je suis pâle. Je suis Élise Cousin, donc j'ai aujourd'hui 60 ans. Et j'avais 51 ans quand on m'a annoncé que j'étais malade. C'est un adénocarcinome de type mammaire par extension. Et là, j'ai marqué un temps d'arrêt. Je lui ai dit, en français, ça veut dire quoi? Il m'a répondu, un cancer du sein par extension. Quand je suis revenue de chez le médecin après l'annonce de la maladie, j'ai quitté mon bureau. Je suis allée voir mon cadre et je lui ai dit, je m'en vais. Mais je dis, je m'en vais pour un moment. Après, j'ai pris ma voiture, je suis allée faire un tour dans les rayons des fleurs. Mais là, j'ai traîné pendant 2 heures dans le rayon des plantes, des fleurs, des oiseaux, tout ce qui vit, quoi. Donc voilà, après, je suis allée voir un cancérologue. J'ai refait une IRM et tout, et puis c'était donc le 29 mars et le 16 avril, je commençais la chimiothérapie. Regarde les deux dames qui arrivent là, en maillot de bain. Celle de droite, là, qui est la plus jeune des deux, qui semble être la plus jeune, voilà, elle est bien bronzée, elle a la taille bien marquée, elle a les cuisses bien fuselées, les jambes bien fuselées, mais l'autre dame aussi, elle est un peu moins jeune. Elle a la taille un peu moins marquée, mais elle a les jambes encore bien, bien dessinées, bien fuselées, quoi. Elles ont une jolie poitrine aussi. Ça aussi, ça fait partie d'un... Les poitrines plates, tout ça, c'est pas beau. Il faut avoir un minimum de poitrine aussi. Une femme sans poitrine, c'est pas une femme. Et là, c'est pas une partie de plaisir, c'est une séance toutes les 3 semaines. Donc la première séance, on y va un petit peu, on sait pas. On vous dit, oui, vous serez fatigué pendant quelques jours, vous risquez de faire perdre vos cheveux, donc commencez à anticiper pour aller vous chercher une prothèse capillaire. Bon, moi, je ne connaissais personne qui faisait des prothèses capillaires sur Angoulême, donc je suis allée sur Bordeaux me la faire. Ça coûte très cher, d'ailleurs, ça m'a coûté 500 euros. Bon, c'est remboursé 70 euros par la Sécurité sociale, ça autant dire rien du tout. La première séance, j'ai été fatiguée pendant 3-4 jours. Mais bon, ça allait malgré tout, bon an, mal an, ça allait. J'avais les cheveux un peu longs, coupés au carré. Et 15 jours après, j'ai penché la tête sur le lavabo de la salle de bain. Et là, tout est venu d'un seul coup. Et là, ça fait un choc. C'était un visage qui est apparu, là, comme ça. L'espace d'un soir, le temps que tous les cheveux tombent dans le lavabo et que je pleure un bon coup par-dessus et que mon ami les enlève tous et que je me suis regardée et que... Non, c'était pas moi, donc ça a été fini. Je dis non, c'est pas moi, ça. Quand on attrape un cancer du sein, c'est ce qu'on appelle un cancer purement hormonal. Ça détraque tout le circuit hormonal. Et on n'a plus de désir. Et quand t'as plus de désir... Pour celui qui dort à côté de toi, mais il le ressent forcément. Donc, quand il a des envies, il vient vers toi, tu te forces, mais il le ressent, même si toi, tu fais semblant, semblant de le désirer, semblant d'être à lui, mais il le ressent forcément. Et c'est vrai que ce fichu cancer en lui-même, et surtout les traitements qu'on t'afflige, c'est-à-dire la chimiothérapie hormonale, le traitement hormonal qu'on te fait prendre pendant 5 ans, qui déjà sur un plan corps, physique, te fait prendre 5 ou 6 kilos, donc déjà tu te sens moins bien dans ton corps parce que tu as pris 5 ou 6 kilos et qu'en tant que femme, quand tu commences à prendre 5 ou 6 kilos en 6 mois, tu te sens forcément moins bien, moins désirable. Donc déjà tu vis mal ça, mais en plus le traitement fait que tes désirs sont en train de s'estomper, en train de s'effacer. Mais moi au bout d'un certain temps, je me suis demandé si je n'allais pas rentrer comme bonne sœur, quoi.
Regarde, par exemple, la jeune fille là qui va se baigner. Comment elle marche ?
Elle marche d'un pas très assuré. Elle est très sûre d'elle, cette fille. Très sûre d'elle. T'as le pas vif, t'as les bras qui balancent le long du corps, la tête bien droite, bien haute. Non, elle est très assurée. Elle est très sûre d'elle. Ça se voit dans la démarche. Et avec le reflet du soleil sur l'eau, c'est joli, quoi. Une démarche assurée, comme ça, très... Non, elle doit avoir beaucoup d'élégance, cette fille. Beaucoup plus que celle qui arrive, qui regarde ses pieds quand elle marche. Tu vois la dame, là ? Elle est lunette à la droite. Elle regarde ses pieds quand elle marche, c'est pas beau ? Elle regarde pas devant elle. Il faut regarder devant soi quand on marche. C'est difficile, hein, de se regarder comme ça. Hein. Non, j'avais pas envie. Je l'ai rejeté, en fait. Il était moche, ce visage, il était tout pâle, il était, voilà, il était blanc, il était fatigué, il était cerné. Alors que moi, bah, j'étais une femme dynamique, tonique, voilà quoi, souriante. Et puis là, bah, d'un seul coup, un visage triste, sans cheveux, tout cerné. Mais c'est quoi cette ombre? C'était, je sais pas moi, ouais, ça faisait un peu, pas une sorcière, non, mais un fantôme devant moi, quoi. Non, non, pas de fantôme dans ma salle de bain, sûrement pas. Non, non, non. Non, j'ai pas pu. Mais le jour où j'ai perdu mes cheveux, je me suis vue que ce jour-là, la tête nue. Je n'ai jamais pu me regarder dans une glace une seconde fois. Jamais. J'ai une salle de bain avec plein de miroirs, mais je m'étais acheté un bonnet en éponge. Je sortais de la douche, je mettais une serviette de toilette sur les sur la tête, pas sur les cheveux, sur la tête, comme si je m'étais lavé les cheveux, comme avant, quoi. Et je tournais le dos au miroir pour mettre mon bonnet en éponge ou pour mettre ma prothèse. Je n'ai jamais voulu me voir sans cheveux. Et je n'ai jamais voulu m'imposer comme ça non plus devant mon compagnon, si bien que je dormais toujours avec mon bonnet sur la tête. J'avais plus du tout, aucune envie, aucun désir. Et ça, ben oui, tu fais semblant une fois, tu fais semblant deux fois, t'as peut-être envie, allez, une fois par mois, en disant, bon, allez, je fasse un effort, et l'envie peut-être vient après, mais par rapport à avant, ça n'a rien à voir, quoi, c'est le jour et la nuit, autant avant, ben voilà, moi, quand il rentrait du boulot, j'avais envie de lui, vice-versa, on pouvait faire l'amour à 6 heures le soir en rentrant du boulot, ou le midi quand il rentrait déjeuner et que j'étais à la maison, c'était, voilà, il y avait du désir, quoi. Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Et on m'a pas expliqué pourquoi ça s'est arrêté. Et on m'a rien dit. Et on m'a pas aidé. Voilà, puis les médecins ne vous en parlent peu. Et moi, je vois quand ça a commencé à m'arriver, c'est moi qui ai avancé le sujet au médecin. Je lui ai dit, bon, j'ai un souci, c'est que, voilà, j'ai une libido complètement éteinte, j'ai plus envie, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est que je suis plus amoureuse? Est-ce que... Ah non, non, il dit, ça n'a rien à voir, ça fait partie de la maladie. Mais je dis, mais pourquoi on ne nous l'explique pas? Vous m'avez expliqué que j'allais perdre mes cheveux, que j'allais avoir des problèmes aux ongles, que j'allais avoir des problèmes aux pieds, que j'allais avoir des problèmes articulaires, que si, que là. À aucun moment, vous m'avez dit, votre libido va s'éteindre. Ben, il dit, non, là, on n'en parle pas. Ben, je lui dis, attendez, si vous, les médecins, vous n'abordez pas le sujet, qui est-ce qui va l'aborder? Pour eux, c'était peut-être secondaire, après tout. Le rôle d'un médecin, c'est de soigner le corps, c'est pas forcément de soigner l'esprit, l'amour, le cœur et tout ce qui va avec. Je sais pas. Et après, ben... Alors, je n'ai pas réagi, certes, mais j'ai pas réagi au début parce que... Ben parce que ce fichu cancer, ça te met complètement à plat, parce que t'es hyper fatigué, parce que la chimiothérapie, ça t'épuise, ça te met KO. Ça te met KO, quoi. Moi, il y a des matins où je me suis levée, j'avais l'impression qu'il y a un bulldozer qui m'était passé sur le corps. Donc, t'es dans la souffrance. Alors, tu mets ça sur le dos de la maladie, de la souffrance. Mais après, quand la chimio est partie, est terminée, bon, tu fais la radiothérapie, donc tu te dis, ben, t'as tout le buste qui te brûle. Allez, tu souffres encore de brûlure. Ok, ça, c'est l'affaire d'un mois et demi. Après, quand c'est passé... On te colle un traitement à prendre, on te dit, vous en avez pour 5 ans. Et vous allez prendre 5, 6, 7 kilos, d'accord? Et tu vois, au fur et à mesure que les semaines passent, effectivement, ton pèse-personne, il n'est pas fou, il n'est pas idiot, il fait bien exactement ce qu'on avait dit. Tu commences à te sentir lourd dans ton corps, tu commences à pas te sentir bien, t'es fatigué, t'es... Et puis tu te laisses aller, enfin tu laisses aller tout ce côté-là. Et à côté, bah, tu penses pas que tu as un homme à côté qui a certainement des désirs. À la limite, je dirais que... C'est pas que tu t'en fiches qu'il ait des désirs, mais tu les vois pas. Tu les ressens pas parce que toi, t'es... Comment dire? Toi, t'es dans ton truc. Tu viens de te remettre à peine d'une chimiothérapie, suivie d'une radiothérapie, entrecoupée par une intervention. Et voilà, quoi. C'est tout ça. Tu viens de subir quelque chose d'hyper conséquent. Ça a duré 15 mois, 16 mois. Entre-temps, t'as même perdu tes cheveux, donc tu te sens pas désirable du tout. On t'a collé une chambre implantable pour te mettre la chimiothérapie, donc t'as une boule là sur le côté de l'épaule. C'est plus toi du tout, enfin, tu te ressembles plus, quoi. Et donc comme tu te ressembles plus, ben, tu te dis, mais c'est pas possible. Donc, je ne voyais que le côté affectueux de mon compagnon. Et il a été, parce qu'il a été présent pendant toute l'année où j'ai été malade. Il a toujours été présent, gentil. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait avoir encore du désir pour le corps que je lui offrais. C'est-à-dire qu'il n'avait plus rien, rien à voir avec le corps qu'il avait connu quelques années auparavant. Et c'est idiot comme réaction, parce que je me dis, bah oui, mais quand il m'a connue il y a 4 ans, bah j'étais toute mince, j'avais pas de cicatrices, j'avais pas de tatouage de radiothérapie partout, j'avais pas ça, j'avais mes cheveux, j'étais en pleine santé, en pleine forme. Mais aujourd'hui, je suis rien de tout ça, quoi. La dame aussi, là, qui passe, regarde, elle est quand même pas mince. Pourtant, elle a l'air très à l'aise dans son milieu de baignoire, là. Non, elle a une démarche, une allure normale, un battement des bras, des jambes, tout ça, c'est... Non, elle a une démarche tout à fait normale, elle a l'air sûre d'elle, elle a l'air à l'aise. On n'a pas l'impression qu'elle soit engoncée dans son corps, peut-être un peu trop volumineux, elle n'a pas l'air... Non, elle n'a pas l'air du tout d'être handicapée par ce volume. Non. Regarde le monsieur qui s'en va, là, au maillot de bain rouge, c'est pareil. Le profil, il a quand même une sacrée bedaine, quoi. C'est pas beau, un homme avec une grosse brioche. Une grosse bedaine. C'est pas très beau. Les pantalons tiennent pas, tout, c'est pas beau.
Et sa démarche, comment il marche?
Oh, il a l'air quand même sûr de lui. Il a pas une démarche pataude pour autant, il a l'air assez sûr de lui, il a l'air bien dans son short, hein. Non, mais après tout, c'est ça l'essentiel. Bon, il a un gros ventre, certes. Mais il a l'air assez à l'aise dans son maillot de bain. Hein. Il y va franco, il n'est pas gêné, il n'a pas l'air d'être gêné, il a une démarche normale.
Et lui qui arrive avec le maillot bleu?
Aussi bizarre soit-il, il est bien foutu, il n'a pas de ventre. Mais il a l'air moins... Il a une démarche moins dynamique, je trouve.
Comment sont ses cuisses?
Bien fuselées. Bien, non. Bon, ça pourrait être un beau mec. Non. Bon, il n'a pas trop de cheveux, mais ça, c'est pas grave. Mais non, ça pourrait être un bel homme. Je sais pas quel âge il a, je ne vois pas assez clair pour voir son âge. Non, il est âgé. Mais pour son âge, oui, il a l'air relativement âgé, mais pour son âge, il est quand même pas mal, quoi. Regarde, il a quand même un joli dos. Moi, j'aime beaucoup les épaules d'un homme. Moi, j'aime les hommes aux belles épaules. Même s'il a un peu de ventre, tant pis. S'il a des belles épaules, ça fait tout pour moi. J'adore les épaules d'un homme. Il faut qu'elles soient un peu carrées, il faut qu'elles soient musclées, il faut qu'elles soient, comment dire, sécurisantes. Pour moi, les épaules d'un homme, c'est sécurisant. Et poser la tête sur les épaules, c'est pas pour rien. Hein. Il faut qu'elles soient sécurisantes, les épaules. J'avais un compagnon à l'époque, donc qui lui me disait « Mais non, ça te va bien, ça se voit pas. » Moi, je voulais surtout pas me regarder, ni même quand j'allais faire mes chimios, ni même le jour où on m'a opéré, j'ai demandé à garder ma perruque sur la tête. Et ils l'ont accordé. Ils m'ont mis une charlotte, un machin sur la tête. Je n'ai pas voulu me montrer au bloc opératoire, même si c'est un monde médical, même si ce sont des chirurgiens qui sont habitués, même si c'est le personnel est habitué. On a, je crois, une fierté perso ou une pudeur. Ça a été très, très dur. Ça dure un an quand même, hein. Un an, c'est long. C'est terrible pour une femme de perdre ses cheveux. C'est terrible. Les cheveux, ça fait partie, enfin chez une femme comme chez un homme, hein, parce que moi j'ai parlé avec des hommes qui ont perdu leurs cheveux, ils l'ont mal vécu aussi, sauf que eux, une casquette et c'est bon, quoi. Mais je trouve que perdre ses cheveux chez une femme, c'est... oui, c'est quand même un reflet de féminité. Pourquoi les femmes se font des couleurs? Pourquoi elles se font des mises en plis, des permanentes, des... Oui, c'est la féminité. Alors quand en plus vous perdez vos cils et vos sourcils, il reste plus rien, quoi. Ça fait vraiment, on avait vraiment l'air malade, en fait. C'est l'image de soi qui s'en va. Une image de soi. Et puis on laisse aller. Et puis l'autre à côté, il réagit pas. par gentillesse, par respect, par ou par lâcheté, hein, tout simplement. Hein. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas réagi lui non plus. Il m'a jamais dit. Jamais il m'a dit, Élise, comment se fait-il qu'on ne fasse plus l'amour? Comment ça se fait que tu n'aies plus de désir? Comment ça se fait? Est-ce que tu crois qu'on ne serait pas bien qu'on aille voir un médecin ou... Parce qu'à la limite, il aurait pu me proposer ça. Ça aurait pu être super s'il m'avait proposé ça. Mais moi, je ne lui ai même pas proposé non plus. Quand on me pose la question, bon, comment tu vas au niveau santé, je suis toujours un peu surprise quand on me pose cette question, parce que comme je vais bien, pourquoi est-ce qu'on prend des... Et puis, ah oui, c'est vrai, Élise, t'as eu une maladie, on te le rappelle, là, des fois que t'aurais oublié. Et c'est un peu ça, quoi.
C'est chiant.
Ouais, c'est chiant. Je veux plus de cette étiquette, moi, j'ai pas du tout envie qu'on me voit comme une ancienne cancéreuse, quoi, ça va. Puis en plus, je trouve que ce mot cancer est moche. Et alors, si en plus vous le mettez au masculin, la cancéreux, cancéreuse, c'est encore plus vilain. Voilà. Il y a des mots comme ça que je trouve moches. Mais parce que je les associe à des mochetés, peut-être.
C'est quoi les autres mots?
Ben, comme un divorce, par exemple, je trouve ça vilain. Je trouve ça vilain comme mot. Divorce, c'est horrible. Enfin, il y a des mots dans la langue française qui sont franchement laids, quoi. Et que je m'interdis d'utiliser, parce que moi, je me suis jamais considérée comme divorcée ou concubine ou quelque chose. Enfin, je trouve ça franchement laid, quoi. Je ne dis jamais que je suis divorcée. Moi, je suis séparée de mon mari, point. Mais je ne suis pas divorcée, c'est vilain. Enfin, je trouve ça moche. Donc, j'utilise pas ce mot. Voyons, mais je pense pas qu'on puisse descendre sur les quais.
Avant, tu venais plus souvent ici?
Oui, quand j'étais plus jeune. Quand j'étais pas toute seule, surtout. Maintenant, toute seule, c'est pas intéressant. Se promener tout seul, ça n'a rien d'intéressant. Une promenade, ça se partage, quoi. Partage ça tout seul, c'est pas drôle.
C'est pour ça que tu viens plus aussi souvent à la mer?
Oui. Oui, à deux c'est plus facile, c'est plus commode, c'est plus amusant, c'est... Voilà, c'est... Bah à deux, on partage, quoi. Tout seul, tu partages quoi? Avec qui? On partage rien avec personne. Alors bien sûr, de temps en temps, tu viens avec une amie, mais le partage n'est pas pareil. C'est pas la même chose. Je cherche pas, et je crois que plus j'ai laissé le temps passer, et moins j'ai envie de chercher. Puis on s'habitue à la solitude, en fait. Bon, quand on a quelques amis, c'est bien. Le tout, c'est de savoir être entouré de quelques bons amis, c'est important. De la famille, c'est important aussi. Puis après, le reste, bon.
Mais Élise, ça te suffit?
Non. 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 Non, c'est les échanges qui manquent. Les échanges quand tu rentres du travail le soir, que t'as personne à qui raconter ta journée. Bon. Non, c'est pas suffisant.
Mais alors pourquoi tu cherches pas?
Quand t'as pris une bonne gifle, t'as pas envie de retendre la joue. Voilà, tout est là. Alors, il y a eu une telle déception que, bon... Ah, attends, je crois qu'il faut qu'on retourne... Ouais, là-bas, peut-être. Et après, c'est là que le changement de vie revient, parce que... Bah, parce que ça bouleverse. Parce que ça bouleverse une vie de femme, parce que ça bouleverse un couple. Parce que quand vous êtes malade... Ben moi, c'était déjà c'était un nouveau couple, parce que j'étais séparée de mon mari. Donc c'était un nouveau couple. Ça faisait à peine 2 ans qu'on était ensemble. Et quand vous êtes malade, vous êtes physiquement moins disponible. Alors, lui, il a pensé qu'une fois que la chimio, tout ça, était terminé, notre vie allait pouvoir repartir comme avant, quoi. Lui, pareil, il avait mis ça un peu comme une parenthèse. Mais en fait, mon envie n'est pas revenue tout de suite. Et on avait une libido très, très réduite, en fait, hein. Donc, on était allé voir le médecin qui lui avait expliqué, qui lui a dit « Mais c'est normal, c'est dans tous les cas pareil. Toutes les femmes atteintes de cancer du sein, elles ont toutes le même problème, elles ont toutes les mêmes réactions. Il suffit juste d'un peu de patience et ça va revenir. » Et ben voilà, il y a des gens qui ont la patience, d'autres qui ne l'ont pas. Et moi, je n'ai pas vu qu'il était allé voir ailleurs. Et après, il est parti. Et je me suis retrouvée toute seule.
Alors c'est bizarre parce qu'avec les années, et après avoir vécu ce que j'ai vécu, on recherche peut-être plus l'affection, la tendresse, que l'amour passion, que l'amour sexuel, que voilà, c'est tout ça qui me manque. Je crois que c'est plus la tendresse et l'affection, le partage, que le sexe hein, quelque part. Hein. Alors, dû à la maladie peut-être, dû à l'âge, je ne sais pas. Dû à la déception, je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question.
Mais après, tu peux aussi avoir beaucoup de tendresse dans des rapports sexuels.
Aussi, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, c'est vrai que se plonger avec des amis couples, c'est pas facile. Heureusement, j'ai des amis qui sont célibataires.
Mais parce que ça veut dire que quand t'es une femme seule, tu deviens une menace?
Pour les femmes en couple, oui. Ouais. Je deviens une menace, oui. J'ai perdu un couple d'amis comme ça. Il n'y a pas très longtemps. Tout ça parce que un jour j'ai dû passer à côté de lui, puis j'ai dû lui prendre le bras. Pour lui raconter un truc, mais comment on fait amicalement, quoi. Elle n'a pas apprécié du tout. Ah bah ça. Donc depuis elle ne me parle plus. Eh ben écoute, tant pis, hein. Dommage pour elle. Dommage pour moi aussi d'ailleurs. Je les aimais bien. Mais bon. Comme ça. Hein.
Mais comme j'ai l'impression que tu souffres quand même d'une certaine solitude.
Ouais, tout à fait. C'est pas une impression, c'est une réelle, c'est une réalité.
Alors quand tu dis bon bah voilà maintenant je suis seule et c'est comme ça.
Ouais.
C'est quand même une fatalité qui n'en est pas une.
Bah je vais prendre ça pour j'essaye de comment dire. J'essaye d'intégrer que pour moi c'est une fatalité et que ça va être comme ça.
Et c'est faux.
Bah oui, mais voilà. Hein. Le quotidien te prouve bien que c'est comme ça. Parce que je suis toute seule depuis 8 ans. C'est comme ça.
Mais tu cherches pas. Pourquoi tu cherches pas?
Mais chercher où? Mais bon, bah oui, je prends ça pour une fatalité. Je me dis, bah maintenant, à mon âge, bah, c'est peine perdue. Voilà. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir, du haut de mes 62 ans, j'ai l'impression d'avoir encore la vie devant moi. Quoi. Paradoxalement, je me dis, bon, c'est fini. Et de l'autre côté, j'ai une petite voix qui me dit, mais non, t'as la vie devant toi. Ah oui.
Et alors, laquelle de ces deux voix tu préfères écouter?
Ben, y a les deux qui me sonnent dans les oreilles, alors je ne sais pas laquelle doit passer devant l'autre. Je ne sais pas.
Bah, quand même.
Allez, à gauche.
Ça va là-haut?
Oui.
Super, hein?
J'ai envie de me dire que j'ai encore la vie devant moi, ça me fait plaisir. Mais bon, c'est un peu contourné là.
C'est bien, le gagnant est forcément sur la table. Hein? Voilà, la couleur jaune, c'est parti. Qui va jouer encore? Là, il y a plus de batteurs. Retourne. Je me rappelle que tant que l'annonce de l'arrivée n'est pas annoncée, vous pouvez tenter votre chance encore. Alors attention, c'est bien vu. L'arrivée, voici le jeu. L'arrivée, voici le gagnant. Client. Regardez-vous bien. 5, bleu clair et numéro 4. Le numéro 4 a gagné. C'est le numéro 4 qui remporte la partie avec un castor. Allez, la partie recommence. On attend d'autres joueurs pour s'en faire d'autres gagnants.
Oui, il est toujours au même endroit, en réanimation. Au bâtiment A, premier étage, réanimation. Oui, tout à fait. Au fond, vous avez les ascenseurs. A, premier étage, réanimation.
Je suis Marilyn Lassagne, je suis sexologue et psychothérapeute. Chargée de cours à l'Université de Toulouse en sexologie et en éducation à la sexualité.
Et je me rappelle, à l'automne 2015, quand j'étais venue vous voir, on avait évoqué les peurs des patients et des couples qui viennent dans votre cabinet. Et je me rappelle... Attendez, je prends juste mon carnet. Et... Voilà. Je me rappelle que vous aviez formulé une peur qui était un peu récurrente chez les patients. Et vous l'avez formulé comme ça. Vous disiez... Est-ce que la sexualité devrait avoir autant de place que j'en ai envie dans ma vie ? Après tout, je suis en vie.
Oui, ça fait partie des questions que chaque personne qui a un cancer peut se poser. Et ça fait partie des étapes par lesquelles une personne peut passer. Et c'est une réflexion qui peut conduire à renoncer à la sexualité. Mais ça peut être aussi juste une étape. C'est-à-dire que... Une personne peut passer par cette étape-là en disant le plus important, c'est que je continue à vivre. Et dire, pour l'instant, la sexualité est secondaire et elle ne me préoccupe pas, ou je me dis, c'est pas la priorité en tout cas. Mais ça peut évoluer aussi. C'est-à-dire que petit à petit, la sexualité, le plaisir sexuel peut revenir à l'esprit... Et puis, on peut de nouveau avoir envie de la vivre à n'importe quel moment. C'est une étape possible. Et encore une fois, il y a aussi des personnes, comme je vous le disais, vraiment qui ont envie de vivre et de vibrer, et de vivre, on va dire, ce qu'on peut vivre dans son corps et émotionnellement dans la sexualité, pour se sentir vivant et qui souhaitent le faire et qui ont besoin et envie de le faire même pendant leur traitement ou même pendant qu'ils vivent le cancer. Hein. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit parce que c'est très important. C'est que au-delà des besoins, j'ai envie de dire, de base, vitaux, manger, dormir, être en bonne santé, etc., le besoin d'aimer et d'être aimé est un besoin essentiel et qu'il est tellement essentiel qu'il peut effectivement conduire à faire ce type de choix-là. Et qu'à travers la relation à l'autre, la relation amoureuse et la sexualité, qui est l'expression, à travers la sexualité, il y a l'expression de l'amour, il y a l'expression de l'attirance, il y a aussi l'expression de l'attirance de l'autre, pour soi, l'expression de l'amour pour soi. Et même s'il n'y a pas de sentiment amoureux dans une relation, il peut y avoir des émotions très positives, se sentir désiré, se sentir beau, belle, etc. Et donc, du coup, sentir qu'on existe, qu'on compte pour quelqu'un, même transitoirement. J'ai envie de dire combien d'hommes, de femmes, par exemple, disent qu'ils ont... dans une période de célibat, multiplier les aventures et les rencontres sexuelles, et dont on dit souvent, de manière très raccourcie, notre société en tout cas les qualifie de personnes qui papillonnent, va voir parfois un peu obsédées du sexe, et qui, quand on les interroge et qu'on prend le temps de leur poser des questions, disent « mais c'est que juste dans ces rencontres-là, au moins, le temps que je suis dans les bras de l'autre, je sens que j'existe pour quelqu'un. » Et celui aussi de pouvoir donner du plaisir, donner de l'amour, désirer l'autre, etc., c'est vraiment un besoin essentiel pour n'importe quel être humain. C'est en ça que la sexualité est extrêmement importante. C'est pas juste... La sexualité n'est pas importante parce que chacun a des besoins sexuels, des besoins de vivre la sexualité, des sensations, du plaisir. Elle est aussi importante dans cette dimension-là. Aimer et être aimé. Désirer et être désiré. Exister.
J'ai fait l'interview de Marie-Lunesse Bouchelot, qu'on va, qui est sexologue.
Oui.
Du coup, là, je prends des sons d'ambiance.
Là, ça va être très calme parce que le service est fermé.
Je peux vous suivre un petit peu?
Oui, si vous voulez, oui.
Ah,
oui.
De toute façon, je ne parle pas, je dis rien, je reste.
Là, je vais faire une chambre et puis après, voilà.
Ok.
D'accord? Ok, ben, ça marche. Juste pour les poissons?
Oui, oui. Même comme c'est des petits bruits, c'est peut-être des sons qui sont spectaculaires et on ne s'en rend pas compte.
Déjà, le quand on claque le balai, ça doit être quelque chose quand même. Ça, je pense que le claquement de balai, c'est quand même.
Puis même, hein, la serpillière contre le.
Contre le sol.
Ouais.
Ouais. C'est vrai que nous, c'est des bruits auxquels on ne fait plus attention, quoi, parce que bon, tous les jours on entend, donc. Voilà.
Ok, merci
beaucoup. De rien.
Bonne journée. Merci. Au revoir.
Moi, j'aime les hommes aux belles épaules. Après, le ventre, les cuisses, je m'en fous.
Chacun ses goûts, chacun son attirance. Moi, j'ai des copines qui regardent les fesses des hommes, moi, je regarde les épaules. Bon, chacun son regard. Moi, les fesses, je m'en fiche. Mais les épaules, pour moi, c'est très, comment dire, c'est très symbolique. Un homme aux belles épaules, c'est quelqu'un qui assure la... Je sais pas, qui révèle quand même une certaine sécurité, une aisance, un confort. Pose ta tête dessus, tu te sens rassuré, quoi. C'est rassurant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Les belles épaules, c'est rassurant.
Et alors, est-ce que tu en as remarqué de là sur cette plage des hommes aux belles épaules?
J'ai pas encore fait le tour, hein. J'ai pas fait le tour. Mais depuis quelques années, j'en trouve pas beaucoup. Parce que pour moi, il faut qu'il soit bon, déjà plus grand que moi, donc qu'il fasse minimum 1m80, et qu'il ait des belles épaules. Ben écoute, je dois être compliqué, je pense. Je ne peux pas se trouver tous les jours. Mais là, j'en vois pas. Hein. Si, le monsieur, là, que je viens de dire, là, oui, il a des épaules qui ont l'air rassurantes. Celui qui est couché devant, il ne faut pas qu'il m'entende, mais pas trop. Il est un peu trop frêle pour moi. Pas assez carré. Je ne pas que je le dise trop fort, il va être complexé, le pauvre garçon. Mais bon, il y a longtemps que j'ai pas regardé les hommes comme ça. Hein. C'est très longtemps. Je les regarde plus. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plus fait pour moi, ça.
C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, le fait de regarder des corps d'hommes et de femmes, il y a deux types de regards, en fait. Hein. Il y a le regard que j'appelle le regard esthétique. Dans le regard esthétique, c'est une paire de lunettes que l'on porte et puis que l'on va utiliser pour comparer, j'ai envie de dire, les corps que l'on regarde, parfois le sien, souvent le sien d'ailleurs, à des critères, à des modèles esthétiques qu'on estime être beaux. C'est un regard et c'est une paire de lunettes qui en général n'est pas toujours, j'ai envie de dire, valorisante. On a plus tendance, on va dire, à repérer les différences, hein, avec le modèle idéal que l'on a et forcément au détriment de notre propre corps. Puis il y a le regard érotique. Et le regard érotique, ce ne sont pas les mêmes lunettes. C'est-à-dire que tout à coup, on va regarder l'autre et on va regarder le corps de l'autre, mais il y a quelque chose qui va se passer de particulier, c'est-à-dire qu'on va être touché bien plus profondément que avec le regard esthétique. Et ça va tout à coup réveiller quelque chose qui peut être effectivement de l'ordre du désir, de l'ordre de l'envie, de l'ordre de l'appétit, l'envie de toucher, l'envie de goûter, l'envie de sentir la peau de l'autre, peut-être aussi l'envie de vivre quelque chose avec l'autre. L'imaginaire commence à se mettre en route. Et quand l'imaginaire se met en route, mais c'est le désir qui démarre. Le désir sexuel, c'est bien une projection imaginaire du plaisir que l'on pourrait vivre avec l'autre.
L'autre jour, j'ai un ami qui m'a embrassé dans le cou. Un ami que j'adore, mais qui est marié, donc voilà. Il n'y aura jamais rien entre lui et moi, à son grand désespoir, mais bon, il est marié, je ne veux pas de ça, je ne veux pas commencer une relation avec quelqu'un de marié. Et sans que je m'y attende, il est passé derrière moi, il m'a embrassé dans le cou. Oula, ça faisait 8 ans que ça ne m'était pas arrivé, j'en ai eu des frissons, mais parce que je l'aime beaucoup cet ami. Mais je ne vais pas lui dire. Il est marié, je ne veux pas le faire divorcer, je ne veux pas, et je ne peux pas entamer de relation qui n'ira nulle part. Donc j'ai pas voulu lui dire, je lui ai simplement dit, mais te laisse pas aller comme ça, c'est pas bien. Voilà. Mais bon. Et c'est vrai que ça. Bon. Il y a longtemps que j'avais pas eu ce petit frisson sympa, agréable, avec un simple bisou dans le cou, quoi. C'est bien un petit bisou dans le cou. Ça fait du bien. Mais bon, je me suis vite retirée parce que. Voilà.
Et du coup, c'est quelque chose d'essentiel parce que là, entre regarder le corps des autres et puis subir les effets du cancer, hein, et tout à coup commencer à laisser émerger le désir grâce à ce regard et à cette paire de lunettes érotiques, c'est changer de positionnement. On passe d'être objet, hein, objet des conséquences négatives, des traitements, de la maladie, etc., à sujet désirant, c'est-à-dire quelque part on reprend pouvoir sur son désir. Et il y a quelque chose de vivant et de fort qui se réveille à l'intérieur, sans compter tous les souvenirs de plaisir passés qui peuvent se revenir à la surface. Ça peut amener à prendre des décisions, ça peut amener à passer à l'action, ça peut être en tout cas très, très fort.
Et le gars derrière avec une chaise verte.
Non plus, il a la barbe. Non mais c'est un facteur mais quasiment rédhibitoire pour moi. C'est dramatique mais j'aime pas, j'aime pas. En fait, pour moi, la barbe, ça a un côté un peu... Enfin, ça a un côté parfois négligé. Je n'aime pas chez un homme, pas plus que chez une femme d'ailleurs, hein, la négligence. Se négliger, négliger son corps, négliger son aspect physique, ça, pour moi, ça renvoie à un côté négligé et ça, j'aime pas.
Alors, regarde son dos.
Ah, et bien voilà. T'as vu ses épaules, là, lui ? Regarde comme il est carré. Il a les épaules plus larges que les hanches. Voilà un mec carré. Voilà un mec qui doit être sécurisant. Ça, j'appelle ça un homme aux belles épaules.
Mais c'est l'homme qui avait de la barbe.
Ah bon ? Ah non. Non, c'est pas lui, c'est pas possible. Ça peut pas être ça.
Si, si.
Non, tu es sérieux ?
Je suis sûre.
Non. Non, non.
Je vais bien regarder.
Ah ouais. On verra quand il va revenir, mais... Bah finalement, il n'y a pas pluie sur la terre, quoi. Il y a aussi autre chose. Et puis bah, la vie après, bah... ouais, bah, y a autre chose. On regarde les choses différemment. On voit
On voit le soleil différemment. On aime la pluie. Même la pluie, on l'aime. C'est pas facile d'aimer la pluie. C'est plus facile d'aimer le soleil que la pluie. Mais moi, j'adore regarder la pluie battre les carreaux, quoi. Je trouve ça sympa. Je trouve ça beau. Quand j'étais dans mon lit, je regardais les feuilles des arbres dehors. Je les avais jamais vues avant. C'est toujours le même arbre. Je les avais jamais vues avant. Ben là, d'un seul coup, tiens, c'est marrant, les feuilles des arbres. Ah ouais, ça bouge avec le vent, c'est beau. On n'a plus le même regard.
En s'approchant de ce petit parterre de fleurs colorées, vraiment de toutes les couleurs, je trouve que déjà ça donne tellement de gaieté d'avoir un petit parterre de fleurs colorées comme ça dans ce jardin public. Et si on s'approche un peu, bah déjà on peut sentir l'odeur des fleurs portées par le vent. Et donc je prends le temps de sentir, de respirer l'odeur des fleurs. Il y a un petit papillon qui est en train de voler là. C'est magnifique. Et là, je m'approche et je vois qu'il y a, une fleur qui me paraissait rose de loin et qui finalement est composée d'une multitude de petites fleurs blanches, rose foncé, rose clair. C'est absolument magnifique. Et quand je la touche, elle est d'une douceur extraordinaire. C'est tellement agréable de la toucher, de la regarder, de sentir l'odeur. Je crois que c'est vraiment retrouver des moments merveilleux comme ça, où les cinq sens vont pouvoir nous apporter du bonheur, du bien-être. Et c'est de cette manière-là que ça fonctionne aussi dans la sexualité. Si on remet en route cette capacité que nous avons à saisir ce qui est bon avec nos cinq sens, alors on le remet en route aussi pour pouvoir en profiter également dans le domaine de la sexualité.
Est-ce que, par exemple, là quand on regarde les gens sur la plage, les hommes et les femmes, est-ce que tu peux avoir un œil de désir ?
Non, pas du tout. J'avais ça il y a 30 ans, mais plus maintenant. Non. C'est l'indifférence. Les gens, je vais les regarder, mais en me disant, tiens, celui-là, il a un maillot de bain qui est sympa, celui-là, tiens, il est pas mal, mais non, j'ai pas de désir. De toute façon, il faut savoir que depuis mon cancer, je n'ai plus de vrai désir. De désir sexuel, j'ai plus. C'est fini. Non. Non, mais j'essaye d'être... Comment dire ? Quand je suis triste, je veux pas le montrer. Quand j'ai un problème, j'évite de le montrer parce que ça sert à rien, ça change rien. Donc ce qu'il faut redonner aux gens, c'est une image positive. Donc j'essaye de renvoyer de moi une image positive. C'est-à-dire que c'est celle chez qui tout va bien, j'ai le sourire, je vais bien. Voilà, bon, aujourd'hui, je peux dire oui, j'ai la santé, j'ai retrouvé la santé, donc tout est parfait. Matériellement, je manque de rien, je travaille encore, voilà. Et quand je passe dans la rue, quand je vais en ville ou quelque chose, ça se voit pas sur moi que je suis rongée de solitude. C'est pas écrit. Et je le montre pas et je le dis pas. Donc voilà. Alors ? Je suis sûre qu'ici, sur cette plage, il y a beaucoup, beaucoup de gens seuls. Et on ne le sait pas, et on ne le voit pas. Peut-être qu'il y a l'homme de ma vie, quelque part. Peut-être.
C'est peut-être le gars à gauche de nous.
Celui qui a la couette, là ? Non.
Non, trop poilu. Il a la barbe, mais les cheveux trop longs. C'est pas pour moi ça. Non, c'est pas lui.
Il n'empêche quand même que ce désir sexuel peut se réveiller. Hein, et que, comme je dis à beaucoup de mes patients, qu'ils aient vécu un cancer ou pas d'ailleurs, hein, on a un pouvoir pour réveiller son désir. On a un pouvoir. On a le pouvoir de favoriser ce qui peut réveiller le désir et de laisser la porte ouverte à ce qui peut favoriser le désir. Si on laisse la porte ouverte à ce qu'on peut vivre avec ses cinq sens, aux émotions qu'on peut partager, qu'on peut vivre et qui peuvent nous faire vibrer, à notre imaginaire, le désir peut naître.
Quelle sensation, le contact d'une main sur la peau?
Je crois que le premier contact, il passe par là, quand même. Le contact de la peau, c'est hyper révélateur. Il y a des peaux qui s'accordent et d'autres qui ne s'accordent pas. Je ne peux même pas expliquer pourquoi. Moi, je sais que quand j'ai rencontré mon mari, le fait de toucher sa peau, de mettre la sienne contre la mienne, je savais que c'était la bonne. Bon, après, on s'est séparés 25 ans après, ok, mais ça, c'est une autre histoire, mais... Quand j'ai rencontré mon compagnon il y a 14 ans, et c'est pareil, il avait une peau douce, il était rasé de près, il sentait bon, il avait la peau qui sentait bon. Et tout de suite, j'ai senti, mais rien qu'au contact de sa peau, que ça allait me plaire. Alors pourquoi, comment, je sais pas. Il y a des grains de peau qui doivent s'accorder, d'autres pas. Bon, quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré des hommes, mais... Le fait de toucher leur peau, ça m'a rien procuré, donc c'était même pas la peine d'aller plus loin. C'était pas la peine. Ça servait à rien. Je savais que le contact de leur peau et de la mienne, ça n'irait pas. Je trouve que quand tu fais l'amour, si tu as un contact avec une peau qui te convient, je trouve que c'est aussi important que le sexe lui-même.
Bonjour et bienvenue sur notre site. Je suis Nathalie Leduc, conseillère Fidelio depuis 1987. Et je peux vous dire que depuis cette date, j'ai uni énormément de couples. Des personnes comme vous, seules, parfaitement libres et vraiment motivées pour créer une union stable et durable. Aujourd'hui, vous avez décidé de changer votre vie. Vous voulez regarder l'avenir à deux. Vous voulez faire une rencontre magique? Alors contactez-moi. Vous pouvez le faire par téléphone, par mail, par courrier.
Voilà, c'est elle.
À très bientôt.
Donc, comment j'ai fait? Fidelio...
Mais tu leur as écrit un mail?
Oui, je leur ai écrit un mail, oui. Je leur ai demandé, je leur ai dit, voilà, je suis intéressée pour vous rencontrer. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, j'ai 62 ans, je vis seule et serais intéressée pour vous rencontrer... pour voir si vous pouvez m'aider à combler les années qui me restent. Je crois que j'ai mis ça. Voilà. Merci. Puis j'ai mis mon numéro de téléphone. Aujourd'hui, à te regarder, je me pose la question, quand les gens me regardent, est-ce qu'ils me regardent moi en tant que femme? Ou est-ce quel regard ils ont, quoi? Je me demande souvent si c'est un regard... J'ai toujours peur du regard moqueur ou cynique, ou je sais pas, comme j'ai un peu... j'ai vieilli, quoi. J'ai 62 ans, donc forcément... Je ne suis plus celle que j'étais à 20 ans, ce qui est normal. Mais je suis toujours un peu gênée par les regards des gens. Et je ne peux pas expliquer pourquoi. Pourtant, bon, quand je suis en toute objectivité, je n'ai pas le sentiment d'être laide. Je ne suis pas grosse, je suis toujours aussi grande, je suis toujours aussi droite. Je me tiens toujours bien, je ne suis pas complètement délabrée. Enfin, pas encore. Alors je ne sais pas, je suis un peu gênée par le regard des autres. Mais je ne peux pas m'expliquer pourquoi. Je ne sais pas. Peut-être depuis que je suis toute seule. Je ne sais pas.
Mais justement, Lise, quand tu avais un amoureux, quand tu avais des amoureux, ça te procurait quoi, le fait qu'ils te regardent?
Une certaine satisfaction, un plaisir quand même.
C'est agréable d'être regardé par son amoureux quand il te regarde avec un œil un peu admiratif, ou un œil gourmand, ou un regard attendrissant, ou un regard affectif. Voilà, c'est agréable. Et comme aujourd'hui, je n'ai plus tous ces regards sur moi, c'est vrai que quand on me regarde dans un magasin ou dans la rue, mon premier réflexe, c'est pourquoi il me regarde comme ça, qu'est-ce que j'ai, quoi. Mais je ne me dis plus, ah tiens, il me regarde, c'est que bah, t'es jolie. Ça, je me le dis plus. C'est fini. Quarante années d'histoire d'amour, d'union réussie, de famille créée ou récompensée. C'est pas beau, ça, comme publicité? Moi, je trouve ça bien. Premier témoignage. Nous venons de passer 12-10 jours ensemble en partageant la totalité de nos activités très nombreuses dans un bonheur indéfinissable. Ce bonheur est totalement partagé entre nous deux, nos proches et nos amis s'en réjouissent. C'est beau. Je vais prendre celui-là, une jeune femme toute seule. Juste un petit mot pour vous dire que nous nous sommes fiancés et que nous avons beaucoup pensé à vous. Bon, là, Elisabeth et Pierre. Je ne croyais plus en l'amour et vous m'avez redonné confiance. Je ne l'espérais plus et j'ai rencontré mon chéri. Il me couvre de bisous et me fait rire aux larmes. Sa bonne humeur et sa manière simple de vivre le quotidien sont communicatives. Bon, c'est plein d'éloges comme ça. C'est très très bien. Là, il y en a un. Jean est un homme de grande valeur. Nous souhaitons tous deux continuer de nous voir pour cultiver ce que nous semons. Bon, est-ce que j'y crois ? Je vais voir. Honnêtement, je n'ai aucun a priori. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Et puis, allez, quelque part au fond de moi-même, ouais, si j'ai fait cette démarche, c'est que j'y crois un peu, c'est que je l'espère surtout. Je réapprenne à avoir du désir. Ça se réapprend peut-être. Je sais pas si ça s'apprend ou si ça revient tout seul. Je n'en sais rien. Je sais pas. Peut-être qu'au début, je ferai un peu comme les jeunes filles qui perdent leur virginité et qui, pour la première fois, qui sont un peu gauches, un peu mal à l'aise, un peu complexées, un peu maladroites. Peut-être, ouais, je ferai peut-être pareil. C'est bien. 62 ans, j'aurais l'impression d'en avoir 17. 17, 18, comme au premier de mon rapport, comme le jour de mon premier rapport sexuel. Maladroite, timide, mal à l'aise. Voilà. Va falloir qu'il ait les épaules solides, hein.
Moi, je vais aller me baigner.
C'est ce que j'allais te dire. Tu voulais pas aller faire un train à l'eau, toi?
Derrière la vitre, le désir. Une création de Mathilde Simon et Gilles Mardi-Rossion. Avec Élise Cousin et Marilyn Lassagne, psychosexologue. Je remercie particulièrement l'association Fleur d'Isa à Angoulême, qui accompagne des femmes atteintes de cancer, ainsi que le docteur Éric Guy et toute son équipe basée à l'Oncopole de Toulouse. Mixage Cédric Chapelus, attaché de production Chouchen Jargayan, productrice coordinatrice Irène Omelianenko.
Cette émission est disponible en podcast un an et réécoute infinie sur notre site. Demain, dans Création en air, évocation de l'exil, dans Aujourd'hui ailleurs, par Lambeloc et Gaëlle Gillon. Et tout de suite, Philippe Garbi, pour les Nuits de France Culture.